Alors, je vous ai préparé un gros PowerPoint. Il y a 84 images. Sur les 84 images, j'en ai sorti 30. Vous torturez les autorités locales pour avoir le jeu complet des 84. Et avec ça, vous aurez, bon, je pense, une vision quand même assez large et quand même très très documentée du sujet. Bon, donc, je vais partir du global, hein, et puis je vais bien sûr atterrir sur le territorial. Le point d'introduction important dans cette question, c'est que notre société est comme une corde qui vibre. Alors, vous avez des ventres, puis vous avez des nœuds, des endroits où ça passe toujours. Et on est dans une période de civilisation où il y a trois nœuds. Il y a le nœud planétaire. Tout doit être cohérent à l'échelle planétaire. Il n'y a pas possibilité de piquer quoi que ce soit en coulisses. On est bien évidemment obligé d'être au niveau planétaire dans un cadre de cohérence. Deuxième cadre de cohérence, ben, c'est la personne. La personne vit tous les aspects du développement durable. Elle en vit la partie économique, elle en vit la partie sociale, elle en vit la partie écologique, elle en vit la partie démocratique, elle en vit la partie culturelle. Elle est, elle aussi, un nœud. Et il y a un nœud intermédiaire. Mais ce nœud intermédiaire s'est dépassé. Dans notre tradition française, le nœud intermédiaire, c'était l'État. Et c'était au niveau de la collectivité nationale que tout se bouclait. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'État, il est tiraillé, je dirais aspiré par le haut vers un niveau supérieur qui est le niveau européen, qui renvoie là aussi aux mêmes données que le niveau planétaire, et puis il est tiré vers le bas par le processus successif de décentralisation qui fait qu'aujourd'hui, le vrai nœud. Alors, il est compliqué à définir, mais je resterai à ce stade-là sur le fait de dire que le nœud, c'est le territoire. C'est-à-dire que le territoire vit l'ensemble de tous les aspects, de tous les aspects dont on parle. Alors, on peut désigner par territoire à la fois l'intercommunalité, c'est bien évidemment pas la commune de base dans le fonctionnement actuel de nos institutions, même si elle doit être intégrée, bien sûr, dans cette dimension-là. C'est l'intercommunalité et c'est aussi les niveaux territoriaux supérieurs. Régions et départements, et bien évidemment, tout va se jouer dans la cohérence et dans la cohésion de ces différents niveaux territoriaux et la capacité entre eux, notamment d'élaborer une planification collective qui intègre, bien sûr, ces trois niveaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques, ni sur le changement climatique, ni sur l'énergie, etc. Simplement, par contre, extraire de ces éléments-là, et là, je pars du planétaire, extraire de ces éléments-là les éléments qui sont dimensionnants et qui posent, bien évidemment, aussi les calendriers. Alors, pour commencer, quelle était la question centrale du 19e et du 20e siècle? La question, elle était simple, c'est est-ce que la science et la technique peuvent améliorer les conditions de vie? C'est ça la question qu'on se posait. Bon, la réponse à cette question est positive. Elle est positive simplement pour un sixième de l'humanité. Elle est positive, on vit à la fin du XXe siècle 25 ans de plus qu'au début du XXe siècle. Donc il y a quand même eu un vrai progrès technique, une vraie amélioration des conditions de vie. Mais bien évidemment, ce schéma du 19e et du 20e siècle est totalement inédit dans l'histoire, c'est-à-dire que jusqu'à la révolution industrielle, l'humanité a vécu dans la pénurie, dans des conditions de vie extraordinairement difficiles, et que cette période, ces deux siècles du 19e et du 20e siècle ont pour singularité qu'ils ont cru, ils ont pensé que l'humanité s'affranchissait des limites. Qu'il n'y avait pas de limite sur les ressources, qu'il n'y avait pas de limite sur la technologie, qu'il n'y avait pas de limite sur la capacité d'expansion humaine, y compris démographique. Hein. Sachez qu'entre 1800 où il y avait 850 millions d'habitants sur Terre, et puis 2050, 2060, où on aura fini la croissance démographique humaine, la population humaine aura été multipliée plus que par 10. Hein. Bon, donc vous avez cet énorme développement industriel, technologique et économique du 19e et du 20e siècle, sans se poser, bien sûr, la question des limites. Alors, une introduction à cette affaire de développement durable qui soit pas gnangnang, et j'en ai marre profondément des mauvaises définitions tirées de Rio et mal digérées. Il y a bien évidemment les trois composantes classiques issues de Rio, mais ces composantes classiques, il faut les remettre dans leur épaisseur historique et politique, faute de quoi on comprend absolument rien. Bien évidemment, tout commence au début du 19e avec une croissance économique qui passe d'1,5% par an. C'est la croissance qui existait en gros depuis le Christ, 1,5% de croissance par an pour l'ensemble de l'humanité, à plus de 5% de croissance économique par an, donc multiplication par 10. Donc une production considérable de richesses dès lors qu'on utilise les combustibles fossiles et qu'on a tout ce développement industriel. Et sur ce premier pilier, qui est le pilier économique, très très vite se pose une question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette richesse ? Et dans cette région, peut-être plus encore que dans beaucoup d'autres, la question sociale va émerger vers le milieu du 19e siècle, et la relation entre la question économique et la question sociale a été d'une extrême conflictualité, d'une extrême brutalité, avec un débat qui va petit à petit se clarifier. C'est-à-dire que vers la fin du 19e siècle, va être mis en place des processus de transaction, des processus de négociation, reconnaissance des syndicats, des réunions régulières entre patronat, syndicats et État pour définir les conditions de travail, les rémunérations, les conventions collectives, etc. Et cette synthèse va se faire entre l'économique et le social, et elle atteindra son apogée dans l'immédiate après-guerre, avec les systèmes de protection sociale, bien évidemment, issus de l'après-guerre, et avec une double synthèse. Cette synthèse prend deux formes. La première forme, il faut développer l'économique, ça fait de la richesse, et de la richesse permet de rémunérer le social. Mais Keynes va faire aussi la démonstration dans l'autre sens, produire du social, de la consommation de masse, c'est stimuler l'économie. Et donc on a cette relation entre l'économie et le social qui devient une synthèse, une symbiose, l'un vit de l'autre. On dépasse la logique de conflit. Mais notez qu'aujourd'hui, ce conflit est en train de réapparaître. Il est en train de réapparaître. Pourquoi ? Parce que cette synthèse a été opérée dans le cadre national. Et bien évidemment pas dans tous les pays. Le problème aujourd'hui, c'est que les travailleurs de chez nous en France ou pays industrialisés sont en concurrence avec des travailleurs de l'autre bout de la planète qui, eux, n'ont pas ces accords sociaux. Et donc on a aujourd'hui le côté social qui est en grande difficulté. Il y a un effeuillage de Marguerite de la protection sociale qui est en train de se faire. Et l'argumentation qui avait été celle de l'après-guerre est en gros abandonnée au profit de l'argumentation suivante. Il faut diminuer la protection sociale pour garder notre place dans la compétition économique. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, la relation entre l'économique et le social devient en ce moment plus difficile, encore une fois parce qu'il y a le changement de positionnement de ce nœud, et qu'aujourd'hui le nœud dominant, le nœud structurant, c'est le nœud planétaire, et que cette négociation entre l'économique et le social au plan planétaire, bien évidemment, n'existe pas, n'a pas été entamée. Donc derrière cela, on va avoir oui, ça je l'ai déjà dit. Après ça va arriver la question écologique. Alors la question écologique, elle arrive dans le dernier tiers du XXe siècle. Probablement que d'un point de vue symbolique, la date de naissance, c'est le retour de l'une des capsules Apollo de la Lune, celle qui a fait le grand 8 autour de la Lune sans débarquer, et qui va prendre la photo de la Terre une fois qu'elle a doublé la Lune. Cette photo est la photo la plus diffusée dans le monde, et cette photo change la relation entre l'humanité et sa planète. Jusqu'à présent, et notamment pendant le 19e et le 20e siècle, l'humanité juge l'environnement, la nature, quand même comme un adversaire. La nature n'est pas facile pour le marin, pour l'agriculteur, etc. L'humanité juge négligeable son influence sur la planète, et donc elle est dans un face-à-face, je dirais un peu conflictuel avec sa planète, et je dirais toute l'élaboration de la pensée depuis les Grecs consiste à distinguer l'humanité de la nature et du règne animal, je dirais d'avoir son autonomie propre par rapport à l'ensemble de ce qui nous supporte. Et puis là, dans la fin des années 60, on fait deux découvertes, que cette planète, elle est singulière, qu'il n'y en a pas d'autres dans le coin comme ça, que probablement, quand on voit l'état des autres planètes, il n'est pas impossible qu'elles soient fragiles et que son état actuel ne soit pas gagné à perpète. Et puis que le développement industriel, notamment dans l'après-guerre, fait que les conséquences de l'activité humaine sur la planète ne sont plus du tout négligeables. Bon, avec des textes qui arrivent au début des années 60, hein, notamment le printemps silencieux de Rachel Carson. Bon, il y a plein de textes fondateurs dans les années 60 qui servent d'alerte par rapport à ça. Alors, vous pouvez faire de l'archéologie et trouver dans des textes beaucoup plus anciens, y compris du 19e, une préscience de cette question-là. Mais en gros, c'est dans la fin des années 60 que tout ça émerge. Et bien évidemment, l'irruption de cette question écologique va être totalement conflictuelle avec les deux questions précédentes, de nouveau. La question écologique percute la question économique. Le monde industriel va voir dans l'écologie des surcoûts, des limites d'utilisation d'un certain nombre de produits, des contraintes très très fortes de production, et donc comme quelque chose qui ralentit la marche royale de l'économie et de l'industrie. Et les gens du social vont avoir la même difficulté. Les gens du social vont dire, bah, attendez, la priorité c'est la distribution du revenu pour tous. Si vous nous ajoutez des contraintes supplémentaires, dans un monde qui, par ailleurs, devient de plus en plus concurrentiel, eh bien, on va perdre des parts de marché. Et donc, on va se retrouver avec de l'emploi mis en cause. Et si vous nous faites une pression écologique trop forte, on va produire du chômage. Et donc, vous avez cette montée-là qui s'exprime. Bon, sachez que donc cette troisième composante du développement durable fait conflit, et que là aussi, avec le temps, des éléments de synthèse vont émerger. Le premier élément de synthèse, c'est que, bien évidemment, ces questions écologiques faisant conflit sur les territoires, l'implantation d'une usine, etc., n'est plus quelque chose de banal comme c'était le cas auparavant. Et donc, dans tous les territoires, quand il va s'agir d'implanter une usine, il y aura conflit entre l'industriel, les voisins, la commune, etc. Et puis, à la fin, on va dire, on va acheter une machine allemande. Bon. C'est-à-dire qu'on va acheter dans l'offre industrielle les offres industrielles qui présentent les meilleures qualités. Et on va s'apercevoir à la fin des années 80 que les entreprises qui prennent dans leur procédé industriel, notamment dans l'industrie lourde, les meilleures précautions vis-à-vis de l'environnement, bah, vont être en fait les entreprises qui vont rafler les marchés. Bon. Et donc on aura les Japonais, les Allemands, les Scandinaves qui vont devenir, je dirais, totalement dominants dans la machine-outil et dans les équipements industriels pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à résoudre quelque part une partie du conflit par la qualité environnementale des produits. Bon. Et puis arrive maintenant la période actuelle selon laquelle bien évidemment l'ensemble du système est en panne ou rentre en grande difficulté, notamment lié à la question des ressources en hydrocarbures, et que à partir du moment où il y a une difficulté sur les ressources, bah, monte cette thématique d'économie verte comme étant, je dirais, la possibilité d'avoir d'autres voies et d'autres procédés de production, davantage inspirés des processus naturels, que ce soit du côté de l'agriculture, que ce soit du côté de l'utilisation des énergies renouvelables, que ce soit le recyclage, et qu'on va trouver dans ces dimensions-là un point supplémentaire d'avancée. Donc vous voyez, là je vous donne une lecture du développement durable qui n'est pas de dire il y a trois patates qui doivent causer ensemble. Non, il faut remettre ça dans un continuum historique. Et c'est ce continuum historique qui donne réellement sens, à cette affaire-là. Alors, un seul graphique sur le changement climatique, mais vous en avez une pelletée dans le PowerPoint. Vous avez là une projection de ces affaires de changement climatique sur les trois siècles qui viennent, avec deux types d'hypothèses, courbe rouge et courbe bleue. On commence par courbe rouge en haut à gauche. Raisonnement extrêmement simple, qu'est-ce qui se passe si, à partir de 1990, date de la publication du premier rapport scientifique sur ces questions de climat. Qu'est-ce qui se passe si l'humanité, dans son ensemble, émet toujours la même quantité de CO2 ? Notez que ce n'est pas si banal que ça, parce que la population humaine va augmenter de moitié d'ici 2060. Un des derniers chiffres des Nations Unies revoit à la hausse la population humaine. On est en transition démographique, c'est la fin de la croissance démographique humaine, mais le chiffre aujourd'hui, c'est 10,8. Pour une raison simple, c'est que y a un peu une reprise de la natalité chinoise avec leur développement économique. La politique de l'enfant unique ne fonctionne plus. Bon, donc, et puis par ailleurs, vous savez qu'il y a quand même une grande partie de l'humanité qui ne consomme pas d'énergie, donc émet quasiment pas de gaz à effet de serre. Donc un scénario de stabilisation, c'est déjà un scénario par lequel les pays industrialisés compensent les émissions à venir des pays pauvres et des populations supplémentaires à naître. Bon, donc on est déjà, pour les pays industrialisés, dans un scénario de déclin, diminution. Bon. Ensuite, graphique du bas, vous voyez que même dans ce cadre-là, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère augmente. On est là sur un scénario de triplement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, pour une raison qui est une raison très simple et qui fait la gravité du sujet, c'est que le temps de séjour moyen du CO2 dans l'atmosphère, c'est de l'ordre de 120 ans. Donc si vous émettez du CO2 en sortant de cette salle par quelque activité quelconque, bah, vous balancez du CO2 qui va agir sur le climat jusqu'en l'an 2131 en moyenne. Donc on a, c'est ça qui nous fait souci. C'est l'inertie du processus. Vous voyez, une dose forte émise chaque année donne un empilage dans l'atmosphère. Et donc les conditions de climat changent derrière. Alors en haut à droite derrière, bah, vous avez la courbe rouge qui grimpe, on a perdu le contrôle du climat terrestre et on rentre dans des températures tout à fait injouables. Quoi. Alors cette question a été beaucoup débattue lors de la préparation de la conférence de Copenhague à partir du dernier rapport scientifique de 2007. Et ce rapport scientifique dit pas plus de 2 degrés de réchauffement. Pourquoi pas plus de 2 degrés de réchauffement? Parce qu'au-delà de 2 degrés de réchauffement, on a une telle perte de pluviométrie sur les deux bandes tropicales de la planète, donc dans laquelle vous avez l'Amérique centrale, vous avez le Mexique, vous avez la Méditerranée, le Sahel, le Moyen-Orient, l'Inde. Et puis sur l'hémisphère sud, l'Australie, le sud de l'Amérique latine, le sud de l'Afrique. Bon, qu'on a une telle baisse de pluviométrie, qu'on a un effondrement des productions agricoles, et qu'on ne sait plus boucler des scénarios alimentaires mondiaux d'une humanité qui aura 10 milliards d'habitants. Bon, et donc au-delà de 2 degrés, comprenez qu'on est dans un scénario de guerre. Bon, on se tape dessus. Alors, la base de la conférence de Copenhague, c'est il faut qu'on soit sur une trajectoire où on ne dépasse pas les 2 degrés. Alors, un petit point quand même au passage, notez que notre corps est complètement incapable de comprendre les moyennes de température annuelle. Hein, vous ne connaissez que les températures extrêmes, et pour vous, un hiver froid, c'est un hiver où il a fait pendant une semaine moins 20. Bon. Vous êtes infoutu de faire la moyenne des températures. Et donc, quand on parle de quelques degrés, on est intellectuellement complètement incapable de comprendre ça. Entre le moment le plus froid de l'hiver et le jour le plus chaud de l'été, nous avons en France 60 degrés d'écart. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dérapage de 2 degrés? Alors, puisque vous avez fait le plaisir de venir ici à Lille, il faut vous rappeler ce que c'était que l'ère glaciaire. Hein. La banquise était sur une ligne Londres-Amsterdam, mais pas très très loin d'ici. Hein. L'océan était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et Monsieur Percheron régnait au milieu d'une toundra en compagnie de mammouths laineux. C'est ça l'ère glaciaire. Et l'ère glaciaire, par rapport à aujourd'hui, c'est 6 degrés de moins. Ça n'est que 6 degrés de moins en moyenne annuelle. La température moyenne de la planète, elle est de 15, ben là, elle était de 9. Voilà. Donc quand on vous parle de 2 degrés de réchauffement, on est quand même sur un réchauffement en amplitude qui est, la moitié ou le tiers de ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, sachant qu'on a déjà quasiment pris un degré de réchauffement depuis le début du XXe siècle. Hein. Donc il faut regarder la courbe bleue en haut à droite, donc stabilisation de la température, pas plus de 2 degrés. Actuellement, on est en train de réfléchir, est-ce que ce n'est pas 1,5 degré le maximum possible, hein? Bon. La courbe du bas, bah, ça veut dire qu'on arrête d'empiler du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc vous avez une courbe qui devient plate. Et puis vous avez en haut à gauche la courbe, cette espèce de vague, la courbe maximale autorisée qui permet de stabiliser le climat. Vous voyez qu'elle commence par une bosse, pour la raison très simple, c'est que depuis 1990, l'humanité a encore augmenté d'un tiers les émissions annuelles. L'Europe est sur une trajectoire de diminution, hein, mais par contre, l'Amérique du Nord, la Chine, l'Inde, etc., bien sûr, sont sur des trajectoires d'augmentation. Donc dans la négociation climat, la question qui se posait, c'est quelle est la date, possible de ce maximum. Le maximum, il faut qu'il soit entre 2015 et 2020, et surtout pas au-delà de 2020, parce qu'après ça, on n'arrive pas à rattraper. Bon, ensuite, la courbe plonge. On doit diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Hein. Certains rapports scientifiques maintenant disent qu'on doit faire une réduction de 85% d'ici 2050. Vous voyez ce que c'est. Et puis la courbe atterrit sur des valeurs très basses, peut-être proche de zéro, c'est-à-dire qu'on ne balance plus dans l'atmosphère du gaz carbonique plus que la nature ne sait en stabiliser, ne sait en absorber pour ne pas le stocker, encore une fois, dans l'atmosphère. Alors, ce graphique est bien évidemment très important parce qu'il est assez inédit dans l'histoire de la planète. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'humanité a un compte à rebours, qu'elle voit d'avance et qui est d'une telle ampleur. Donc là, on est sur quelque chose qui s'impose à nous à échéance de 40 ans. Alors, je dirais pour les plus âgés d'entre nous, je tiens à vous rappeler que 2050 est plus proche de nous que 1968. Donc, ce n'est pas si loin que ça, quoi, 2050. Derrière ça, le deuxième point, c'est qu'une division par deux sur le plan mondial, et là, j'avais fait le rapport pour Raffarin, pour la France, c'est une division par quatre, hein, que l'on doit faire d'ici 2050. Vous comprenez que diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre, c'est complètement changé de mode de développement. Donc, vous êtes là face quelque chose qui prend la dimension d'un changement de civilisation, et que ce changement de civilisation est sous contrainte temporelle. C'est-à-dire que là, la négociation internationale sur le climat en ce moment est en complet échec. Ça se passera encore très mal à Durban à la fin de cette année. Mais pendant ce temps-là, le changement climatique continue. On ne peut pas quitter la table de négociation en disant on réglera le problème plus tard. Non, la machine est partie. Et plus elle part, plus elle dérive, plus ça va coûter cher collectivement à l'humanité, et notamment du point de vue de la démocratie et de la paix. Bon, donc de cette question du climat, je voudrais tirer devant vous trois conclusions. La première conclusion, c'est que vous êtes, de l'histoire humaine, devant la première question à solidarité obligatoire. Le climat de la France n'est pas fait par les Français. Vous voyez les écharpes nuageuses qui, à la télé, à la météo, passent d'un pays à l'autre. Le climat de la planète est un tout, est un ensemble unique, non séparable. Et donc, le climat de la France est fait par l'ensemble des pays de la planète. Bon. Donc, vous êtes là devant quelque chose qui est, encore une fois, une grande rupture. Encore une fois, ce nœud planétaire. Hein, jusqu'à présent, toutes les questions que l'humanité a eu à résoudre, elle les a résolues bon, plus ou moins bien, mais dans un cadre national et pas dans un cadre global. Y compris la faim dans le monde ou le sida, qui sont des questions bien évidemment planétaires. Chaque pays s'est débrouillé de son côté. Là, on ne peut pas jouer perso. On est contraint à la solidarité. Alors, permettez-moi de dire que c'est une bonne nouvelle, parce que le XXe siècle aura une très mauvaise réputation dans l'histoire. C'est le siècle qui a produit le plus de richesses, et c'est le siècle qui a laissé creuser le plus d'inégalités. Bon. On le sait bien, l'humanité a tendance à l'égoïsme. Elle est capable de générosité, mais quand elle y est obligée. Bon. Et bien là, on y est obligé. Bon. Donc on va être obligé de resserrer les écarts de développement entre le Nord et le Sud, de trouver des éléments de compensation et des stratégies de développement pour les pays pauvres, parce que le sort des pays riches en dépend. Quand on parle aujourd'hui, dans la négociation climat, de transfert nord-sud, c'est plus de l'aide. C'est faire des investissements où que ce soit sur la planète, sachant que les dits investissements profitent à tous les pays, y compris aux pays donateurs. C'est-à-dire que si la France réduit une tonne de carbone en France, ben, le résultat n'est pas meilleur que si elle réduit une tonne de carbone au Burkina Faso. Le bénéfice climatique est le même. Bon. Vous voyez qu'on est là dans quelque chose de tout à fait spécifique. Le deuxième point, c'est la granulométrie du sujet. La moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'activité de chacun d'entre nous dans sa vie privée. Nos modes de chauffage, nos choix de déplacement, nos pratiques alimentaires, nos modes de conso en général pèsent la moitié des émissions du pays. Donc on ne peut pas résoudre le problème par une grande technologie salvatrice, tel type d'usine, tel type de procédé qu'on placerait à un endroit et qui résolverait tout. On ne peut pas fonctionner comme ça. On est dans un sujet sur lequel on est obligé d'aller chercher l'adhésion, l'alliance, la contribution active de chaque citoyen. Et que là, vous êtes sur une conclusion politique tout à fait importante. Vous êtes face à un sujet sur lequel un bon démocratique est absolument indispensable. On ne peut pas résoudre le problème sans l'adhésion des gens, sans le fait que chaque personne accepte de changer son propre comportement. Tellement ça touche un grand nombre de choses dans l'ensemble de nos vies. Et donc vous avez là une deuxième conclusion politique. Donc vous voyez que cette question du climat, je ne dis pas que c'est la question la plus importante, je dis autre chose. La question du climat est la question qui va restructurer le système politique international et la démocratie dans nos pays. On ne peut pas résoudre le problème sans aller chercher l'adhésion des gens. Et donc vous tombez à partir de ça sur le rôle central des territoires et des collectivités locales pour trois raisons principales. Ce sont elles qui font les investissements de longue durée de vie. Ce sont elles qui structurent les réseaux et donc qui conditionnent les transports et donc qui répartissent les activités sur le territoire. Et ce sont elles qui ont le contact avec le citoyen. Or, le citoyen, il va falloir aller le chercher par la main et l'impliquer dans le bidule. Bon. Donc vous avez là, vous voyez, des conclusions politiques qui sont des conclusions tout à fait fortes et qui font la singularité de cette question climatique. Bon. Rapido, un autre aspect, la question de l'évolution des prix des énergies. Donc vous avez en haut le pétrole, le gaz et le charbon, et puis en bas l'électricité. Bon, on est dans une situation extrêmement difficile sur les combustibles fossiles, essentiellement les hydrocarbures. Alors, bon, on savait déjà depuis un certain temps que les deux tiers du pétrole étaient dans le Moyen-Orient. Et quand le Moyen-Orient s'embrasait, ça donnait des chocs pétroliers. Donc c'était les chocs pétroliers de 73 et de 79. Donc c'est la partie gauche de la courbe. On a fait après ça beaucoup d'investissements. Donc on s'est payé 15 ans de répit. Et puis maintenant, on est reparti dans une situation de forte hausse. Alors pour un raisonnement, de base qui est tout à fait simple. La totalité des pays industrialisés à la fin du XXe siècle, ça pesait 1 milliard d'habitants. Hein, vous faites l'addition, Union européenne, Amérique du Nord, ex-URSS, plus Japon, 1 milliard d'habitants. Bon. Donc il y avait 5 milliards qui étaient dans des pays en développement. Bon. Et là, aujourd'hui, avec la mondialisation et le décollage des émergents, vous avez trois milliards d'habitants qui rentrent dans des sociétés industrialisées. Notez d'ailleurs, dans les négociations internationales, le changement de vocabulaire, on ne parle, pour nous désigner, on ne parle plus des pays industrialisés. Les Chinois sont contre. On nous désigne maintenant comme les pays développés. Parce que les Chinois et les Indiens disent les pays industrialisés, c'est nous. Tout ce qui est dans vos supermarchés, ça vient de chez nous. Donc, nous sommes des pays industrialisés non développés. Bon. Donc, voilà ce que disent les Chinois et les Indiens. Bon. Bref, si vous avez un système énergétique, un système de matières premières, dans lequel il faut alimenter en grande quantité, non pas 1 milliard d'habitants, mais 4, ça fait des à-coups dans la plomberie. Bon. Et que l'année dernière a été l'année de l'histoire de l'humanité, de la croissance maximale de la consommation pétrolière, avec une consommation pétrolière qui a augmenté de 4,8%. Bon. Donc vous comprenez que ça tire sur les ressources. Or, bien évidemment, on a été chercher les ressources les plus faciles, et il nous reste, bien évidemment, les plus difficiles. Là, sur le pétrole, vous avez l'histoire du pétrole sur le XXe siècle, hein, avec sur la partie gauche les courbes dentelées, ce sont les découvertes. Vous voyez que le maximum des découvertes, c'est en 1962, et que depuis 1962, ça a énormément chuté. Alors, avec une petite baisse ici, dans la fin des années 70, Parce qu'à cause des chocs pétroliers, on s'est mis à aller chercher du pétrole partout, mer du Nord, golfe du Mexique, golfe de Guinée, etc. Mais qu'on est maintenant vers des rythmes de découverte annuelle qui sont extrêmement faibles. Et les deux tiers du pétrole qu'on découvre, c'est du pétrole offshore. Et donc dans des conditions d'extraction, de rémunération qui sont bien évidemment beaucoup plus difficiles que le pétrole du Moyen-Orient ou du Texas qui jaillissait tout seul. Et donc on est là face à